Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la grande chat, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Hamal.
Avec nous pour cette émission, Sophie Beau, cofondatrice avec Klaus Vogel, il faut citer son nom également, de SOS Méditerranée, une association indépendante, et c'est important de le préciser, qui porte assistance aux personnes en détresse sur mer, ça c'est le titre officiel, on reviendra beaucoup plus en détail sur votre travail. Bonjour Sophie Beau.
Bonjour.
Vous l'aurez compris, on va parler de migrants, des réfugiés et des drames qui se déroulent en Méditerranée. Mais auparavant, Sophie Beau, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Il faut le reconnaître, cette émission dérive dangereusement. À sa création, nous naviguions hardiment vers un cap clairement déterminé. La Grande Tchatch avait pour ambition de hisser la parole des élus au-dessus de la ligne de flottaison de la langue de bois politique. Mais après 10 ans de bons et loyaux services, après avoir pris dans nos filets quelques beaux spécimens et même une poignée de requins, nous explorons de nouveaux horizons. Sophie Beau, vous n'êtes ni députée, ni sénatrice, ni élue, ni porte-parole d'un parti, ni candidate au moindre mandat, et pourtant, vous voici l'invité de ce rendez-vous politique. Peut-être parce que la politique est une chose trop grave pour la confier au seul politique, surtout lorsque, en 2016, plus de 4000 personnes cherchant refuge sur nos rives en fuyant les guerres et la misère se sont noyées en Méditerranée. Avec un capitaine de marine marchande, allemand. Vous avez donc initié une association européenne civile de sauvetage en mer, SOS Méditerranée, dont vous êtes en France la directrice. Si vous n'avez toujours pas le pied marin, vous arborez depuis longtemps pavillon humanitaire. Vos études d'anthropologie portaient déjà sur les migrations entre le Mali et la France. Mais à la posture d'observatrice et au dogme universitaire de la neutralité, vous avez rapidement préféré larguer les amarres pour vous engager du côté de l'action. Un diplôme de développement et de coopération en poche, vous embarquez une dizaine d'années dans les équipes de Médecins Sans Frontières, alternant responsabilités dans les sièges et postes de terrain. L'envie de vous rapprocher de la Méditerranée vous conduit à Marseille dès 2004 pour coordonner les missions France de Médecins du Monde. Votre route vous entraîne également dans l'univers de l'action sociale et à la direction de la délégation régionale PACA, de la FNARS, la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale. Après moult péripéties, dont on parlera, SOS Méditerranée est donc sur les flots. L'Aquarius, le bateau affrété grâce à une mobilisation citoyenne inédite, a déjà secouru en 10 mois 10 000 hommes, femmes et enfants. 10 000, c'est aussi, selon l'ONU, le nombre de morts en Méditerranée au cours des 3 dernières années. Cet hiver, l'Aquarius est le seul navire humanitaire à ne pas être rentré au port. Votre mission est de convaincre afin de ramener des sous pour que ce bateau reste le plus longtemps à l'eau. Un enjeu vital, humain et politique.
Sophie Beau, une réaction à ce portrait à la sauce ravie, un peu moins piquant que d'habitude, Michel Guéraud.
Je suis désolée, le sujet n'est pas extrêmement réjouissant. C'est vrai que parler de sauvetage en mer, c'est surtout parler de cette tragédie humaine en Méditerranée. Donc c'est un engagement humanitaire pour moi et donc le portrait qui vient d'être fait retrace un peu ce parcours qui a été le mien et qui depuis longtemps est dirigé dans le sens de l'action sur le terrain.
Oui, donc peut-être on va partir déjà du concret, c'est-à-dire que dans l'Aquarius, à l'heure à laquelle on parle à nos auditeurs, il est en mer et donc c'est le seul navire humanitaire à ne pas être rentré au port. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Alors depuis le début du mois de décembre, effectivement, l'Aquarius est le seul navire de sauvetage qui est resté sur cette zone de sauvetage au large des côtes libyennes, entre les côtes libyennes et l'Italie, dans le canal de Sicile. Parce que il y avait quelques navires humanitaires qui nous avaient rejoints cet été et depuis le mois de mai, très exactement, et qui petit à petit sont rentrés au port parce que pour pouvoir rester en haute mer en plein hiver, il faut un gros bateau. Il faut que ce bateau puisse tenir la mer, quelle que soit la météo. Dans les jours qui viennent, par exemple, il y a une grosse tempête qui s'annonce. Beaucoup des bateaux qui étaient sur zone à nos côtés cet été, on était une dizaine de navires humanitaires au plus fort de la vague, sont pas du tout adaptés en fait à ces conditions. Donc ils sont rentrés petit à petit. Et puis il y a aussi des associations qui sont toutes petites et qui n'ont pas les moyens financiers de payer ces coûts qui sont très très élevés, on va y revenir j'imagine, pour pouvoir mener ces opérations toute l'année.
Alors Sophie Beau, avant il y avait traditionnellement on va dire, il y avait une route terrestre qui passait par les Balkans, on l'utilisait en hiver, et l'été était beaucoup plus propice aux tentatives de traverser en mer. C'est fini ce schéma-là et caduc ?
En fait, ça fait très longtemps qu'il y a aussi des migrations maritimes qui ont lieu l'hiver, on en entend moins parler. C'est pas aussi très lointain, hein, toute cette médiatisation. C'est depuis 2013 qu'on entend vraiment parler de ce drame en Méditerranée. Il y a eu un double phénomène qui a permis d'attirer l'attention médiatique en 2013. Il y a eu d'une part le pape François qui, à son arrivée, a fait son premier déplacement à Lampedusa et qui a fait un sermon vibrant sur la mondialisation de l'indifférence par rapport à cette tragédie en mer Méditerranée et qui a appelé les États européens à faire quelque chose et à se manifester en soutien à l'Italie, qui était vraiment seule à agir depuis des années. Il y a eu ça. Et juste après, il y a eu un énorme naufrage devant les côtes de Lampedusa en octobre 2013, qui a fait près de 370 morts. Et les Italiens ont eu vraiment sous les yeux les images de ce drame, parce que là, ils étaient vraiment témoins directs depuis les côtes. Et il y a eu des plongeurs qui ont pu aller voir l'épave. Ils ont pu vraiment voir l'ampleur de ce drame de manière très concrète. Alors que, évidemment, malheureusement, ces naufrages, c'est pas récent, mais ça se passe en général sans témoins. Et là, on rejoint aussi une mission qui est essentielle pour SOS Méditerranée, c'est cette mission de témoignage. Il faut bien sûr secourir les personnes, mais il faut aussi pouvoir être présent sur la mer pour que ce ne soit pas seulement des bateaux qui disparaissent sans témoins et sans connaissance en fait du monde entier.
Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est ce que vous mettiez en avant lors de la campagne initiale, hein, pour convaincre les gens de donner de l'argent pour faire cette opération, c'est qu'il n'y avait pas d'antécédent en Méditerranée. Il n'y a jamais eu de navire de sauvetage en mer humanitaire.
Alors,
avec un navire dédié.
Il y a eu uniquement les gardes-côtes italiens pendant des années qui n'ont pas les moyens nécessaires et adéquats pour faire ces opérations et qui interviennent bien au-delà de leur zone de compétence maritime, qui donc quand même étaient présents par défaut parce que les autres pays environnants ne prenaient pas cette responsabilité. Et puis, il y a surtout eu, donc à partir de 2013, juste après ce naufrage de Lampedusa, une très grosse opération, pour le coup, de la marine italienne qui s'est appelé Mare Nostrum et qui a mis en place des moyens considérables pour faire une vraie opération de sauvetage comme on en a besoin encore aujourd'hui, avec des moyens, un budget de 110 millions d'euros sur l'année, plusieurs bateaux mobilisés, des avions de reconnaissance, des hélicoptères, 900 hommes. Enfin, c'était vraiment une très grosse opération. Et cette opération était tout à fait justifiée puisqu'ils ont pu secourir 150 000 personnes sur un an. Mmh. Et malheureusement, les Italiens, qui déjà traversaient une période économique très difficile en Italie, ont sollicité l'aide de l'Union européenne, notamment un soutien financier, qui non seulement n'a pas été apporté, mais en plus l'Union européenne a proprement torpillé cette initiative italienne en disant que ça faisait un appel d'air. Et c'est pour le coup, donc cette opération a pris fin en novembre 2014 et c'est à partir de ce moment-là en fait, que nous avons commencé à travailler sur le projet de SOS Méditerranée.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé de sauver et témoigner de la situation. Quelques chiffres pour témoigner de cette situation. On parle, vous me corrigez si je me trompe, depuis le mois de janvier, de 17 personnes qui sont décédées, qui ont disparu par jour.
C'est ça. On est même... oui, c'est ça. C'est à peu près ça. On est à 4800 victimes recensées en Méditerranée depuis le début du mois de janvier 2016. C'est le plus gros bilan humain qu'on ait jamais eu à déplorer en mer Méditerranée jusqu'à présent. C'est vraiment le record. Et cela, ça ne concerne que les victimes qui sont recensées, c'est-à-dire les corps qu'on repêche, les corps qui s'échouent sur les plages, et les personnes qu'on peut compter d'après les témoignages précis des survivants lorsqu'il y a des survivants à des naufrages. Et bien évidemment, tous ceux qui disparaissent sans aucun survivant, lorsqu'un navire coule, enfin un petit bateau de fortune coule sans témoins et sans survivants, on ne les compte pas. Donc il y a beaucoup plus de victimes que cela, on le sait. Enfin, nous avons des témoignages de proches qui recherchent des disparus, hein, et dont personne n'a jamais eu connaissance, avec des bateaux qui sont partis à des dates précises et dont on n'a vraiment pas trouvé la trace. Donc il y a évidemment encore plus de morts que ce nombre déjà terrifiant de près de 5000 victimes sur l'année 2016.
Michel. Revenons sur l'Europe, Frontex, il n'y a pas de dispositif européen d'action en mer?
Alors non, il n'y a pas de dispositif institutionnel qui soit mis en place avec un mandat de sauvetage.
Il y a bien des bateaux affrétés.
Par contre, il y a des bateaux qui sont affrétés par Frontex. Alors ça, c'est plutôt dans les eaux territoriales européenne, donc on est encore un peu loin de la zone de sauvetage, c'est plus près des côtes, ça c'est pour l'agence Frontex qui a comme mandat de protéger les frontières. Et il y a une opération militaire qui s'est mise en place il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle EUNAVFOR Med Sophia, qui est une opération de l'Union européenne, qui donc voit se déployer plusieurs bateaux militaires au large des côtes libyennes. Donc là, on est pour le coup assez proche de notre zone de sauvetage, là où nous opérons avec l'Aquarius. Mais le problème, c'est que cette force militaire n'a pas pour mandat le sauvetage. Donc ces bateaux, leur mandat, c'est de lutter contre les passeurs. Ils sont dans les eaux internationales au large de la Libye. Évidemment, les passeurs ne vont pas aller se jeter dans la gueule du loup en allant taper à leur porte. Hein. Donc, ils ont du mal quand même à remplir cet objectif. Ils n'ont pas encore eu l'accord qu'il leur faudrait pour passer à une deuxième phase de l'opération qui était prévue dans les eaux libyennes. Et puis, encore moins pour passer à une troisième phase qui serait de pouvoir agir à terre en Libye.
On parle quand même, toujours sous votre contrôle, de 12 000 passeurs arrêtés.
Ah non, pas du tout.
J'ai trouvé ce chiffre-là, 12 000 passeurs arrêtés.
Non, ils ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait, moins d'une centaine de passeurs qui avaient été arrêtés depuis le début de l'opération.
D'accord.
Ça, c'est alors un chiffre qui a quelques mois, donc on peut... il y a quelques mois, c'était 87, le dernier chiffre que j'avais en tête. Non, parce que les passeurs, évidemment, ne montent pas sur ces bateaux. Ils sont pas fous, ils n'ont aucune raison de monter parce qu'ils savent très bien qu'ils ont une chance sur deux d'y rester, donc, ou bien de se faire arrêter en cours de route. De toute façon, il n'y a aucune de ces embarcations de fortune cette année qui soit arrivée jusqu'aux côtes italiennes. Soit les bateaux coulent parce qu'ils ne sont pas secourus, soit ils sont secourus. Mais il n'y a pas de bateau qui arrive jusqu'aux côtes italiennes depuis la Libye cette année. Ça n'existe plus.
Michel ?
Ce que vous expliquez, c'est-à-dire que les bateaux Frontex, hein, pour les, on va simplifier, ils mettent de toute façon beaucoup de temps à arriver sur site si nécessaire, hein, plusieurs heures, des fois trop tard donc.
Effectivement, eux, ils sont beaucoup trop loin parce qu'eux, ils sont proches des côtes et des eaux territoriales européennes. Hein, donc, eux sont beaucoup trop éloignés. Par contre, en ce qui concerne les bateaux militaires de EUNAVFOR Med Sophia qui sont plus proches de notre zone, voire ils sont dans cette zone, alors là où on est face vraiment à une aberration, c'est que ces bateaux, comme c'est un dispositif militaire, n'apparaissent pas sur les cartes maritimes et donc ne font pas partie des forces que les autorités de secours italiennes qui coordonnent les secours et qui sont basées à Rome peuvent mobiliser pour pouvoir participer aux efforts de sauvetage. Alors, comme ce sont des bateaux et qu'il y a une loi de la mer qui est de porter assistance à toute embarcation en détresse, si eux voient une embarcation ou ont connaissance d'un signalement de détresse et qui se trouvent proches de cette embarcation, ils vont aller porter secours. Donc, ils sont amenés à faire du secours quand même. Mmh. Et c'est de là que vient la confusion. C'est pas leur mandat, ils sont pas coordonnés pour, ils sont pas visibles par les autorités de coordination des secours qui sont basées à Rome. Mais malgré tout, s'ils se trouvent face à une embarcation en détresse, il y a des opérations de sauvetage qui se font. Et d'où cette énorme ambiguïté qui est un peu utilisée. Et en fait, l'Union européenne essaye de se cacher derrière ce phénomène-là. Ils disent, dès qu'ils sont en fait interpellés sur ces questions qui sont quand même assez fondamentales, de savoir qu'est-ce que font les États face à cette situation qui est une catastrophe humanitaire. La réponse est toujours de dire, ah non, mais on fait du sauvetage, il y a des bateaux qui font du sauvetage. C'est faux, il n'y a pas de force de sauvetage, il n'y a aucune force maritime à l'heure actuelle qui a pour mandat de faire du sauvetage, mais c'est vrai que leurs bateaux répondent, comme tous les autres bateaux, comme les bateaux de commerce également, comme n'importe quel autre bateau qui se trouve sur cette zone et qui se trouve face à une embarcation en détresse, ils ont l'obligation d'intervenir. Et donc, ils sont de facto confrontés à des situations où ils font du sauvetage.
L'échec de Frontex, on peut parler d'échec, il est imputable à qui ?
Alors là, c'est...
À des ordres clairs
C'est une question compliquée, mais l'échec par rapport à quoi ? Par rapport au mandat de protection des frontières ou par rapport à la question du sauvetage qui n'est pas prise en compte ? Moi, ce que je trouve un vrai échec, qui n'est pas forcément celui de Frontex, parce que Frontex remplit son mandat d'agence de protection des frontières. Après, on peut discuter sur la légitimité de ce mandat-là. Mais eux, c'est ça leur mandat, donc ils travaillent là-dessus. Après, là où il y a une vraie question qui se pose politique, c'est que fait l'Union européenne face à cette catastrophe humanitaire ? Comment se fait-il qu'après autant d'années, parce que ça n'a rien de nouveau, cette catastrophe humanitaire, même si maintenant on la suit mieux, on la documente mieux, et il y a peut-être plus de victimes parce qu'il y a des flux migratoires qui vont plutôt croissants. Comment ça se fait qu'au bout d'autant d'années, il n'y ait pas encore de dispositif de sauvetage ? Et c'est encore pire que ça, il y a eu un dispositif de sauvetage qui a été mis en place et il a été supprimé. Donc c'est là on peut vraiment parler de défaillance majeure de nos États et de l'Union européenne.
Michel ?
Alors peut-être qu'on devait inviter Éric Zemmour, mais il n'est pas encore arrivé. Mais la question qui vous est peut-être renvoyée, c'est cette fameuse théorie de l'appel d'air. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne vous reproche pas, avec votre dispositif, d'inciter finalement les migrants à prendre une embarcation précaire et à tenter leur chance en Europe ?
Alors là, je vais vous répondre par les faits. Les faits, c'est que lorsque l'opération Mare Nostrum s'est arrêtée en novembre 2014, au mois de novembre, décembre 2014 et janvier, février 2015, mars, il y a eu toujours autant de départs et il y a eu énormément de victimes. Ça a été un hiver extrêmement meurtrier parce qu'il n'y avait justement plus du tout de bateaux de sauvetage. Et que les gens continuent à partir, évidemment, sur les embarcations. Il faut qu'on parle plus en détail de pourquoi ces gens quittent ces côtes libyennes dans ces conditions-là, pourquoi est-ce qu'ils mettent leur vie en danger. C'est des gens qui sont extrêmement déterminés. Ils fuient l'enfer en Libye. C'est un véritable enfer pour les migrants. Ils ont toutes les raisons de vouloir sauver leur peau, y compris en mettant leur vie en danger sur cette traversée qu'ils savent être mortelle. Hein.
Sophie Beau, on a un profil type aujourd'hui du réfugié qui tente la traversée ?
Non, il y a beaucoup de raisons et il y a beaucoup de nationalités qui sont concernées. Sur l'Aquarius, nous avons accueilli donc 10 768 personnes, très exactement, depuis le 26 février. Les nationalités, en général, on a deux pôles d'origine qui sont essentiellement en Afrique subsaharienne, la Corne de l'Afrique, avec en tête l'Érythrée, mais aussi la Somalie, le Soudan, l'Éthiopie. Et puis un deuxième pôle qui est l'Afrique de l'Ouest avec en tête le Nigeria et beaucoup de gens qui fuient Boko Haram d'après ce qu'ils nous disent. Mais c'est pas seulement le Nigeria, c'est aussi des zones entières au Cameroun. Enfin c'est voilà, il y a beaucoup plus de régions maintenant hein, qui sont sous la menace
islamiste. Et tous ces gens-là ont pour point de sortie la Libye.
Alors, tous ces gens-là, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils quittent leur pays, donc ils sont soit de fuir une guerre, un conflit, une menace islamiste, des dictatures. Hein, on a aussi des différentes témoignages qui nous disent que des jeunes, notamment, quittent leur pays parce que c'est une véritable dictature. Il n'y a aucune liberté, il n'y a aucun projet d'avenir possible. Quel qu'il soit, donc, quelles que soient leurs raisons, effectivement, maintenant, les routes migratoires convergent vers la Libye parce que c'est un véritable chaos en Libye à l'heure actuelle et que du coup, la traite humaine prospère puisqu'il n'y a pas de contrôle, il y a une très forte corruption, il n'y a pas d'autorité étatique digne de ce nom puisqu'il y a plusieurs gouvernements qui se disputent le pouvoir. Il y en a un qui est reconnu par les Occidentaux, mais il n'a pas forcément force de loi sur tout le territoire, hein, pas du tout. La menace de Daesh aussi, différentes problématiques entre des tribus libyennes, etc. Bon, c'est très compliqué, la situation politique c'est vraiment le chaos. Ce qui nous décrive en tout cas, ce qui est commun, c'est la force par les armes. Vraiment des filières entières de trafic. Les rescapés qu'on interroge ne savent pas s'ils avaient affaire à des militaires, des milices, des bandits, des trafiquants, des criminels. Ils ne savent pas qui sont ces gens, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment des filières entières de trafiquants. Les gens passent par des camps où ils sont emprisonnés. Et pour pouvoir sortir de ces camps, il faut payer des rançons. Les gens, en général, n'ont pas les moyens pour payer. Donc, ce qui se produit et ce qui est pratiqué à très, très grande échelle, c'est la torture quotidienne, répétée, massive de toutes ces personnes qui sont emprisonnées. Et on leur demande d'appeler des proches dans leur famille. Et pendant qu'ils se font torturer, les familles sont appelées en leur demandant d'envoyer de l'argent sous menace de tuer leurs proches.
Alors cette vague migratoire-là, elle est un peu différente de ce qu'on a pu connaître auparavant. Il y a eu les boat people, il y a eu les pateras au Maroc qui partaient en Espagne. La différence, hormis l'ampleur qui est beaucoup plus importante, la différence, c'est quoi ? C'est cette torture que vous décrivez, les camps, le passage à grande échelle, l'industrialisation de la chose ?
Il y a beaucoup de parcours différents. Donc il ne faut pas faire de généralité sur les raisons qui amènent les migrants à partir. Très récemment, par exemple, on a eu de nombreuses personnes originaires du Bangladesh et quelques-uns de Syrie aussi, qui sont arrivés jusqu'en Libye, ce qui n'est quand même pas du tout un itinéraire très logique, a priori, pour eux. Mais mais parce qu'en fait, ces personnes travaillaient en Libye depuis des années, étaient implantées, travaillaient parfois depuis l'époque de Kadhafi même. Et elles nous disent que c'est tellement devenu dangereux, que leur vie est vraiment en danger. Enfin, c'est plus possible pour elles de vivre en sécurité en Libye. Donc le point commun, effectivement, de cette migration-là qui passe par la Libye, c'est de ne pas pouvoir vivre en sécurité en Libye avec des violations massives des droits humains répétées et surtout notamment sur les migrants africains, les noirs africains, qui sont extrêmement ciblés, pour lesquels vraiment il n'y a pas de sens de vie, de mort, il n'y a pas de loi, quoi. C'est vraiment, ils nous disent, on peut se faire tirer dessus par des gamins dans les rues, les enfants, on leur donne des armes et on leur dit de s'entraîner à tirer sur les noirs. Voilà les témoignages qu'on a et qui sont vraiment répétés. C'est pas un témoignage, c'est plusieurs témoignages qui concordent. Voilà ce que nous disent les rescapés sur l'Aquarius. Mais également des migrants économiques qui étaient présents en Libye depuis longtemps, donc qui nous disent c'est trop dangereux, on part parce que c'est le seul moyen de sauver notre peau. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des gens qui n'avaient pas forcément un projet migratoire vers l'Europe. C'est beaucoup de gens qui avaient des projets migratoires intra-africains, en fait, hein, qui viennent de l'Afrique subsaharienne et qui travaillaient en Libye, ou bien donc des gens qui venaient, y compris de pays comme le Bangladesh.
Alors, vous avez donné le chiffre tout à l'heure, 10 768 réfugiés recueillis par l'Aquarius. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces réfugiés ?
Alors nous travaillons toujours en coordination avec ce centre de secours basé à Rome, qui nous communique d'abord les signalements de détresse, pour aller repérer les embarcations. Il y en a certaines qu'on a nous-mêmes repérées à la jumelle, hein, et donc là, on leur signale. Mais dans la plupart des cas, ce sont eux qui nous disent à tel endroit, on a un signalement de détresse. Ensuite, on procède aux opérations de sauvetage, donc nos canaux sont mis à l'eau, nos équipes vont prendre chaque rescapé, etc. à bord. Il y a toute une phase de soins et de récupération à bord de l'Aquarius, parce que les gens sont complètement traumatisés, sonnés, épuisés, parfois dans des situations médicales d'urgence.
On a un pourcentage au niveau des femmes, des enfants ?
Oui, on a 82% d'hommes, 18% de femmes, et on a 25% de mineurs. Et sur ces 25% de mineurs, donc un quart des personnes qui sont accueillies sur l'Aquarius, il y en a 9 sur 10 qui sont des mineurs non accompagnés, qui voyagent seuls, essentiellement des adolescents. Mais on a pu avoir des fratries de gamins, dont par exemple un enfant qui était avec ses petits frères et sœurs, l'aîné avait 12 ans. Donc on a vraiment des enfants qui voyagent seuls et qui font cette traversée dans des conditions effroyables.
Vous êtes en capacité d'assurer à minima un suivi justement de ces gens que vous avez recueillis ? Est-ce que vous savez s'ils sont réexpulsés aussitôt, est-ce qu'ils obtiennent un droit d'asile et en quelle proportion ?
Alors, effectivement, donc après, ils arrivent sur l'Aquarius et l'étape d'après, c'est de les ramener à terre en Italie dans un port qui va nous être indiqué par les autorités de coordination de secours italiennes, qui vont répartir un petit peu les différentes arrivées justement de navires. Quand il y avait plusieurs navires, maintenant on est seul, donc c'est plus simple. Mais il est réparti sur leur territoire pour pas engorger un seul port de Sicile, par exemple. Ou Lampedusa, qui est la première terre italienne sur le trajet, mais qui est un tout petit caillou au milieu de l'océan, enfin de la mer, et qui a une très petite capacité d'accueil. Donc, il nous indique que ça varie. Hein, c'est plutôt la Sicile, mais c'est aussi parfois le sud des Pouilles, ou bien on a été jusqu'en Sardaigne. Et ensuite, ces personnes donc, sont accueillies à terre par, d'une part, les autorités italiennes, mais aussi des ONG qui interviennent en Italie et des associations. Et là, nous, on les perd complètement de vue. Elles sont intégrées dans le dispositif d'accueil, d'enregistrement, un certain nombre aussi, enfin on peut dire de tri, hein, puisqu'il y a depuis la mise en place des hotspots, qui sont ces centres d'hébergement qui vont aussi procéder à l'enregistrement des personnes. On peut aussi parler de tri des migrants. Et là, nous, malheureusement, nous n'avons absolument pas la capacité de les suivre, même si on a pu garder des contacts avec certains d'entre eux qui sont passés sur l'Aquarius.
Alors, Sophie Beau, on a parlé un peu de comment vous les recueillez, qu'est-ce qu'il arrive après. Est-ce qu'on peut faire la différence, une fois qu'ils sont à terre, entre réfugiés ? Est-ce qu'on doit faire surtout la différence entre réfugiés et migrants ? Ou est-ce que finalement...
Alors finalement, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Quand on tend la main à quelqu'un qui se noie, est-ce qu'il faut lui coller une étiquette ou une catégorie ? C'est vraiment, pour nous, ça n'a strictement aucun sens, cette distinction.
Mais elle se fait une fois à terre. Vous êtes d'accord qu'elle se fait ?
Pour nous, ce sont des personnes, des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vraiment du mal à souscrire à ces catégories. Alors, en plus, on est vraiment dans une phase qui est celle de l'urgence humanitaire. Il y a une obligation d'assistance à toute personne en danger. On n'a pas besoin de mettre une étiquette sur la personne pour savoir s'il faut lui porter assistance ou pas. Donc, ça n'a aucun sens par rapport à notre activité. Après, évidemment, je ne suis pas non plus déconnectée de la réalité. Je sais qu'à terre, il y a des lois et il y a des procédures d'asile qui sont mises en route pour certains d'entre eux. Et certains qui ne correspondent pas à ces procédures vont devoir être refoulés, etc. Mais ça, c'est vraiment dans une deuxième étape, c'est la question de la politique d'accueil à terre. C'est des questions politiques qui mériteraient un traitement un peu plus sérieux que celui qui est fait actuellement, je pense, parce que je pense qu'il y a un manque de courage politique, un manque de responsabilité politique sur ces questions. Mais vraiment, ce n'est pas la question de notre association que de savoir si ce sont des migrants, des réfugiés ou autre chose.
Donc la comparaison bon réfugié, mauvais migrant n'a pas lieu d'être.
Non, mais ça n'a aucun sens parce que... comment qualifier un migrant ? On nous dit souvent, oui, mais alors il y a des migrants économiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire un migrant économique ? Quelqu'un qui part du Soudan, qui fait face à un conflit dans son pays, qui est dans un pays où il y a une forte sécheresse, donc il n'a pas les moyens de vivre de ses cultures, par exemple, qui est soumis aussi à des conditions de répression politique. Donc c'est quoi ? C'est un migrant économique, c'est un migrant politique, c'est un migrant climatique ? Ça n'a aucun sens. On colle des étiquettes sur les gens, mais il faut voir la globalité du parcours de cette personne.
On va revenir sur les enjeux politiques de ce domaine dans lequel vous intervenez avec SOS Méditerranée. Revenons sur les conditions de création de votre projet, de votre initiative. Mais peut-être une question, vous qui avez pas mal baroudé à Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, pourquoi ces grandes maisons de l'humanitaire ne sont pas allées sur ce terrain-là ? Pourquoi il a fallu créer une nouvelle ONG, finalement, pour prendre, selon vous, en main ce problème ?
Alors, c'est une question très légitime, d'autant plus qu'on tape un peu sur le dos des institutions européennes et des États en disant qu'il ne faut rien, mais qu'ont fait les humanitaires, effectivement, depuis 15 ans, face à cette situation qui était connue des humanitaires ?
Elle n'avait pas cette ampleur.
Elle n'avait pas forcément cette ampleur, ou elle n'était peut-être pas aussi connue dans son ampleur. Mais moi, je me souviens très bien d'avoir eu des discussions il y a 10 ans dans une ONG dans laquelle je travaillais.
Les a cités toutes. Hein.
Qui portait justement sur qu'est-ce qu'on va faire en mer Méditerranée. Et la discussion restait bloquée au niveau des compétences maritimes. Il y avait à chaque fois toujours ce même écueil. On n'a pas les compétences maritimes, on n'a pas l'expertise maritime, on est des médicaux. On n'est pas des marins. Et donc, il n'y avait pas, ce pas ne se faisait pas, quoi. Pendant des années et des années, y compris les plus grosses ONG occidentales sont restées bloquées avec cet écueil-là, sans passer à l'action. Il a fallu quand même attendre 2015 pour que la première ONG, c'était Médecins Sans Frontières, qui a mis deux bateaux en mai 2015. Ça a été les premiers bateaux humanitaires d'envergure mis en place. Il y avait aussi une petite ONG maltaise, mais qui, elle, s'était constituée pour cela, avec un bateau. Donc ça a été les premières interventions humanitaires.
Alors,
sur cette catastrophe.
Selon vous, la réponse, l'argument technique, il ne tient pas parce qu'on a vu Médecins Sans Frontières finalement, dans votre sillage, affréter des bateaux très rapidement avec les moyens qui sont les leurs.
Alors il y a d'autres raisons, effectivement. Je pense qu'il y a une vraie difficulté, mais qui n'est pas que celle des humanitaires. Hein. C'est aussi une difficulté des États et de l'Union européenne et plus globalement de l'opinion publique peut-être même, à penser l'action humanitaire en mer. Et encore plus dans un contexte d'eau internationale. Normalement, on agit sur des terrains. Alors le terrain, c'est quoi ? C'est de la terre, hein, le terrain. C'est pas de la mer. Et c'est pas un élément sur lequel on a l'habitude d'agir, et ni même de penser l'action humanitaire. Je pense qu'il y a vraiment une difficulté à penser cette action humanitaire.
Là j'ai une mauvaise pensée qui vient. En mer, il y a moins de caméras, peut-être ?
Certainement aussi, mais je pense vraiment qu'il y a des découpages un peu qui sont le fruit de l'histoire, hein, qui sont des programmes d'aide pour telle ou telle zone, telle région, qui font que automatiquement on va à un moment donné avoir de l'aide qui va se déclencher sur une catastrophe en Afrique, qui va se déclencher sur une catastrophe en Asie, mais en mer, il n'y a pas cette historique et il n'y a pas ces catégories. Elles ne sont pas pensées, elles ne sont pas mises en place. On nous a d'ailleurs répondu aussi, je ne parle pas que des humanitaires, mais là je parle aussi des agences d'aide étatiques, qu'il n'y avait pas cette catégorie mer Méditerranée. Quand on est allé solliciter les financeurs, on en a sollicité beaucoup des financeurs pour avoir des fonds publics. Et on nous a répondu, écoutez, on est vraiment désolé, mais il n'y a pas de programme d'aide en mer. Tous les financements concernent soit le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, mais on n'a pas de ligne budgétaire pour la mer.
Alors vous-même, c'est une rencontre aussi, hein. ça se raconte peut-être. C'est une rencontre avec un capitaine de marine marchande allemand qui vous lance dans cette histoire-là. Il fallait cette technicité malgré tout.
Enfin, c'est évident. C'est-à-dire que il fallait vraiment la rencontre entre le monde maritime et cette capacité, cette expertise pour monter des projets d'envergure avec des milliers de personnes hein, qui vont être bénéficiaires de ce projet au final. C'est vraiment important. On a mobilisé l'un et l'autre nos réseaux respectifs, lui dans le monde maritime et moi dans le monde humanitaire, et nos connaissances en montage de projets, lui sur le maritime, moi sur la gestion d'opérations humanitaires, pour pouvoir travailler ensemble pour monter ce projet. Je pense vraiment que c'est pas possible de faire quelque chose de durable. En tout cas, c'est la volonté d'SOS Méditerranée, c'est de bien sûr répondre à cette crise, mais c'est quelque chose de durable, c'est un projet pérenne, puisqu'on est une association civile de sauvetage en mer Méditerranée. On se projette malheureusement, je dirais, sur de la durée, parce qu'on ne voit pas d'éléments pour que ces migrations et ce drame en Méditerranée s'arrête.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Avec nous aujourd'hui Sophie Beau, présidente d'SOS Méditerranée. On parle de réfugiés. Sophie Beau, il y a eu cette image, parce que pour que les gens se mobilisent, il faut des images fortes. Il y a eu cette image sinistre et tragique du petit Aylian Kurdi. Est-ce qu'à partir de là, les choses se sont accélérées, les choses ont changé ?
Alors nous, on était en plein montage de notre projet au moment où il y a eu cette image. On ne l'avait évidemment pas anticipé. On a créé SOS Méditerranée en Allemagne au mois de mai 2015 avec un premier groupe de citoyens européens qui se sont réunis en se disant non, c'est pas acceptable, on peut pas supporter cette situation en mer Méditerranée. Et en tant que membre de la société civile, marin, humanitaire ou autre, simple citoyen, on n'accepte pas cela et on va essayer de mettre en place ce projet avec comme objectif de mener des opérations de sauvetage en mer Méditerranée. Et puis, on a par hasard donc été dans le flot de l'actualité, confronté à cette photo du petit Aylan sur les plages de Turquie. Effectivement, ça a été un choc hein, dans l'opinion publique. Et il y a eu effectivement, à ce moment-là, au mois de septembre 2015, une vague d'émotions dans l'opinion publique plutôt favorable aux réfugiés, qui n'a pas duré, notamment avec les attentats de novembre juste après. Et en fait, on est tout à fait conscient de ces fluctuations de l'opinion publique, mais notre but, c'est vraiment justement de travailler complètement en dehors de cela, de manière durable et pérenne, en dehors de ces agendas qui sont des agendas politiques ou médiatiques qui vont être fluctuants, qui vont être positifs ou négatifs vis-à-vis de cette question. Mais nous, on peut pas, on peut pas dépendre de cela.
En même temps, vous jouez vous aussi sur le registre de l'émotion et ça peut se comprendre. Je pense par exemple à la médiatisation des naissances sur l'Aquarius. C'est vrai que c'est des moments, j'imagine, émouvants pour les équipes et pour les gens aussi qui reçoivent vos mailings, etc. Il y a eu combien de naissances sur le bateau ?
Il y a eu trois naissances à bord. Mmh. La troisième, c'était effectivement il y a une semaine. On ne joue pas du tout avec ça, non. Alors, c'est vraiment pas un jeu. Non, mais je vous reprends parce que c'est mal choisi le terme.
C'est un vrai moment. J'imagine que ça suscite quand même de l'émotion, des dons peut-être.
C'est un vrai moment d'émotion avant tout pour les équipes à bord. Et je peux vous dire qu'après les quatre sauvetages qu'ils ont enchaînés le week-end où ça s'est passé, ben, ils étaient heureux d'avoir une naissance à bord. Et ça a permis de les remotiver. Enfin, c'est quand même très très dur. Faut vous imaginer ce que c'est que d'enchaîner quatre opérations de sauvetage avec quatre bateaux en détresse. Tout ça en moins de 48 heures. Non-stop, quoi. De nuit, de jour, et deux bateaux à la fois. Même à un moment donné, ils étaient sur un bateau en bois avec plus de 400 personnes. Et à ce moment-là, il y a un pneumatique qui arrive dans le champ visuel. Donc, il fallait aussi leur porter secours. L'Aquarius est le seul bateau sur zone. Ils ont dû tout gérer seuls. Et donc, une des femmes qui était à bord, qui était enceinte de 9 mois, a accouché le lendemain sur l'Aquarius. Franchement, c'est pas pour jouer avec l'émotion. C'était vraiment une grande émotion à bord. Et ça fait 3 fois que ça recommence. Et à chaque fois, c'est une très grande émotion pour nous, en fait. On est une toute petite équipe. On vit vraiment avec les personnes à bord, les réfugiés.
On peut donner un peu la dimension de l'équipe parce que, c'est encore une fois, c'est petit, hein, ce projet, c'est porté par peu de monde. Alors, sur le bateau, il y a combien de l'équipage c'est?
Alors, sur le bateau, il y a 30 personnes environ. Il y a une dizaine de personnes qui sont affrétées avec le bateau, l'Aquarius, qui sont exclusivement dédiées à la navigation de ce gros bateau, hein, 77 mètres. Donc, il faut quand même un équipage pour pouvoir le faire naviguer, ce bateau. Donc ceux-là sont vraiment consacrés à la navigation de l'Aquarius. Et en plus, donc, il y a une dizaine de personnes pour SOS Méditerranée qui sont l'équipe de sauvetage, avec deux personnes dédiées à la communication, une pour nous faire part de tout ce qui se passe à bord, et puis l'autre qui fait des photos. Une dizaine de personnes de l'équipe de Médecins Sans Frontières, qui est notre partenaire médical à bord, et qui donc là prend en charge les personnes dès qu'elles sont arrivées sur le bateau. Et ils ne sont pas impliqués sur le sauvetage même, mais ils sont impliqués sur la deuxième partie, la prise en charge des réfugiés à bord, une fois qu'ils sont là, pour leur faire bénéficier de consultations médicales. Il y a beaucoup, beaucoup d'urgences médicales. Quand les gens arrivent, il y a énormément de brûlures, notamment, avec ce mélange très corrosif entre l'eau de mer et les carburants qui se mélangent dans les fonds des bateaux. Il y a parfois des hypothermies, et de plus en plus, là, depuis le début de l'hiver, on a eu deux décès, malheureusement, de femmes qui avaient été récupérées inconscientes sur un canot pneumatique et qu'on n'a pas réussi à réanimer. Elles sont mortes d'hypothermie. Donc voilà, il y a vraiment des urgences médicales, et il y a eu trois naissances. Et d'ailleurs, Médecins Sans Frontières l'avait bien anticipé, nous avait dit non, on va vraiment prévoir une sage-femme dans l'équipe, parce que on risque d'être confronté à des naissances. Et au-delà de ces naissances, la sage-femme peut aussi faire des consultations à toutes ces femmes enceintes qui n'ont jamais eu de consultation médicale sur leur parcours d'exil.
Ça démontre quand même le degré de désespoir de femmes enceintes qui prennent le risque de traverser.
Alors, soit elles sont déjà enceintes quand elles partent, soit elles tombent enceintes sur le parcours, ce qui est une très grande majorité d'entre elles, et notamment du fait de viols répétés qu'elles subissent sur ce parcours d'exil, soit entre leur pays et la Libye, ou si ce n'est pas le cas, en Libye de toute façon. On a vraiment des témoignages sur le fait que toutes les femmes se font violer de manière répétée dans ces camps en Libye, ou par différents groupes qui...
L'Aquarius a une capacité d'accueil de combien de migrants ?
Alors au départ, on avait dit entre 200 et 500... en fait, on a une capacité d'accueil en couvert, vraiment dans les espaces couverts, d'environ 150 personnes. Dès qu'on est au-delà, on est obligé de mettre certaines personnes dehors sur le pont. Donc évidemment, les femmes, les enfants, les personnes blessées, les malades, etc. sont à l'abri, à l'intérieur. Et les autres, on a aménagé des espaces avec des bâches couvertes, donc sur les ponts extérieurs. Et on a la capacité, là, on est monté jusqu'à 750 personnes une fois. Mais on a plutôt une capacité de 500 à 600 personnes.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de cette terrible photo du petit Ilian. La compassion, c'est quelque chose qui est important. La compassion envers les réfugiés, aujourd'hui en France, on va pas parler par l'ITOT, et en Europe, partout en Europe, est indexée à la menace terroriste. Plus la menace est importante, moins la compassion apparaît, on va dire. Comment vous arrivez-vous à expliquer aux gens, vous qui dépendez de dons, votre association dépend exclusivement de dons, en tout cas 98-99%, comment vous expliquez aux gens la différence qu'il y a entre des migrants et cette menace terroriste ?
Écoutez, la menace terroriste, elle n'est pas du tout liée à la migration en particulier.
Dans l'inconscient collectif,
on sait très bien que... mais il suffit de s'informer pour savoir que...
Si les choses étaient aussi simples.
Alors, moi, c'est ce que je vous réponds, en tout cas. C'est sûr que ces questions-là sont séparées. Et en plus, vraiment des amalgames faciles et qui ne grandissent pas ceux qui les font, je pense, voire qui les instrumentalisent et qui les répandent. Moi, ce que je trouve important, et ce qui manque par contre au niveau politique, c'est de parler des valeurs fondamentales. On dirait que c'est un gros mot de parler de l'empathie et de la compassion et de la fraternité, de la solidarité, alors qu'il est. Ça fait partie des valeurs qui sont dans notre traité de l'Union européenne. Si vous relisez l'article 1, vous les verrez, ces valeurs de solidarité, de fraternité. Écoutez, on se base vraiment tout simplement sur ces valeurs-là. L'idée, c'est de les mettre en action, en pratique. Et je pense que s'il y a des dérives aussi dans nos pays européens, c'est parce qu'il y a un manque... grave de courage politique pour non seulement promouvoir ces valeurs, mais en faire quelque chose concrètement.
L'accord qu'il y a eu avec la Turquie récemment, c'est un déficit de valeurs. La Turquie qui a signé un accord avec l'Europe pour accueillir les migrants en échange d'argent.
Bah écoutez, oui, c'est là aussi, c'est vraiment des calculs, à mon avis, à court terme. Parce que, de toute façon, les personnes qui sont déterminées à migrer, elles vont partir par tous les moyens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, là, avec cet accord ? On a coupé la route de la mer Égée, donc entre la Turquie et la Grèce, qui était encore une des routes les moins mortelles qui pouvaient être empruntées par ces migrants. Donc, les flux se reportent sur des routes plus meurtrières. Mais quel est l'intérêt Bien sûr, il y a moins d'entrées par la Grèce maintenant, après quelques mois de mise en place de cet accord. Mais il y a plus d'entrées par l'Italie, sur la route entre la Libye et l'Italie. Et il y a de nouvelles routes qui se sont créées depuis l'Égypte. Et alors là, c'est extrêmement meurtrier. Donc, quel est l'intérêt de procéder comme ça? De toute façon, les gens vont passer par ailleurs. Et ils vont de toute façon rejoindre le pays sur lequel ils souhaitent aller.
Michel? Alors, on parle d'Europe, mais il y a un fait intéressant à souligner. C'est que SOS Méditerranée, c'est... plusieurs pays réunis dans une même structure et pas tout à fait en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas possible de créer une association européenne.
Effectivement, notre projet initial c'était de créer une association européenne, association européenne de sauvetage en mer Méditerranée. Ça n'existe pas encore dans le droit européen, donc on s'est évidemment renseigné pour essayer de mettre en œuvre ce projet d'association européenne. Il y a toujours des discussions en cours, ça fait 4 ans que les parlementaires européens travaillent sur le sujet et ça n'a toujours pas abouti. Donc on a dû créer différentes associations, une en Allemagne, une en France, une en Italie. On est en train de réfléchir à la création de nouvelles associations.
Ça, c'est les pays les plus réceptifs ?
C'est les trois pays sur lesquels on avait des noyaux au départ du projet, en fait, des citoyens qui se sentaient concernés et qui avaient vraiment l'envie tout de suite de créer une association dans ce pays. Et puis on a des pistes en cours dans d'autres pays européens, mais qu'il faut qu'on développe. Donc on a créé pour l'instant trois associations sœurs. On a la même charte qu'on partage, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs et on contribue financièrement aux opérations de sauvetage, les trois associations.
Le nerf de la guerre, on en parle, 11 000 euros par jour à peu près, ça c'est ce que coûte l'Aquarius, le bateau, soit plus de 70 000 euros par semaine. Et sur une année, le chiffre est assez important, c'est 4 millions d'euros, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Donc face à ce coût qui est très important, mais qui correspond une fois encore à des moyens qui sont ceux d'un bateau de 77 mètres avec deux canaux de sauvetage, une trentaine de personnes à bord de ce bateau pour travailler. Il a fallu donc chercher des financements. On a été au départ vraiment tous azimuts. On n'avait absolument pas... exclu de sources de financement. Donc on a tapé à la porte des financeurs État, Union européenne, collectivité territoriale, donc les financeurs publics, et puis aussi bien sûr auprès du grand public et des fondations et du mécénat. Et ce qu'on a très très vite constaté, c'est qu'en fait les seuls qui étaient réactifs, c'était les citoyens européens. Et là, effectivement, un don, c'est direct et ça nous a permis, en 6 semaines, on a collecté 275 000 euros avec une première opération de crowdfunding sur Internet en septembre-octobre 2015. On a donc pu réunir un tiers du premier budget qui nous était nécessaire pour lancer l'opération en mer. Et grâce à cette mobilisation exceptionnelle des citoyens européens...
beaucoup et c'est à la fois très peu sur l'ensemble du continent européen.
On était complètement inconnus, donc on démarre un projet comme ça, sans aucun mécène derrière, sans aucune personnalité publique derrière. On a vraiment commencé avec personne derrière nous. Il fallait d'abord se faire connaître, partager ce projet, etc. On a eu le soutien quand même d'acteurs de la société civile. À Marseille, par exemple, le MUCEM nous a offert de nous prêter son auditorium pour la présentation publique de ce projet, ce qui était quand même un vrai pari. On n'avait pas encore de bateau à l'époque, on n'avait rien. Ça nous a permis quand même d'avoir une existence publique et médiatique assez rapidement.
Peut-être pour rappeler aussi aux auditeurs comment ça s'est construit. Quand vous êtes lancé, vous aviez 15 jours de visibilité financière une fois que le bateau était affrété. Et à ce jour, même si maintenant vous êtes un peu mieux visible, vous avez 3 mois, c'est ça, sur l'année 2017 de visibilité financière. Rien n'est gagné. C'est une bataille permanente.
Tout à fait. En fait, l'essentiel de notre énergie à l'heure actuelle, c'est de continuer à mobiliser des financements. Donc, on vient de relancer un appel à dons et j'en profite pour le relancer. Vous allez sur le site sosméditerranée.fr, vous faites un don. Parce que grâce à tous ces petits dons qui ont pu être faits par de très nombreux citoyens, on a pu collecter comme ça 99% de notre budget. En fait, en France, c'est 75% du budget qui est constitué des dons des citoyens, des particuliers, et 25%, ce sont maintenant des fondations et des mécènes qui nous ont rejoints. Mais c'est vraiment en deuxième vague. C'est-à-dire que pour que le bateau commence ses opérations, il a fallu que des citoyens se lancent, croit en ce projet qui nous a été renvoyé comme un projet fou au départ et supporte le projet pour que ça puisse démarrer. Une fois que l'Aquarius était sur zone et qu'on a pu démontrer, on en est à 46 opérations de sauvetage, et qu'on a pu donc démontrer cette efficacité, c'est plus facile maintenant de convaincre d'autres financeurs, des mécènes, mais c'est quand même essentiellement, ça reste encore essentiellement des financeurs privés.
Alors peut-être un mot quand même, justement, l'argent et l'argent public. Alors si je crois que dans la première vague, il y a eu une municipalité, celle de Paris, sur un montant relativement modeste, mais pas négligeable, j'imagine, mais qui a donné donc de l'argent. C'est tout en France ?
Oui, c'est tout. On a été voir différentes collectivités territoriales.
Marseille ?
Je rappelle aux auditeurs que Paris n'est pas au bord de la Méditerranée. Hein.
Tout à fait. Que le siège de Nice. SOS Méditerranée est à Marseille pour la
Marseille,
France.
Marseille, Nice. Vous avez démarché ces mairies ?
Alors, on a démarché la ville de Marseille, le conseil départemental, la région PACA, et on n'a pas eu de réponse positive à ce jour, mais on ne désespère pas que sur la deuxième année d'existence de SOS Méditerranée...
Quelle a été l'explication ? S'il y a eu l'explication ?
Il y a plein d'explications techniques qu'on peut toujours donner. Moi, je pense qu'il y a, un manque d'intérêt sur ces questions, tout simplement, ou un manque de volonté politique.
Vous ne faites pas de rapport avec la motion qui a été votée au Conseil régional, par exemple ? Conjointement entre le Front National et la majorité des Républicains.
Je ne fais pas forcément de rapport
sur les migrants.
Mais je constate qu'il y a quand même peu de courage politique sur cette question de manière générale, quel que soit le bord politique. Hein, voilà. Que nous sommes une association apolitique. Donc ça, c'est très important. Nous regroupons des citoyens qui juste considèrent que c'est inacceptable, cette situation, et quels que soient les débats politiques. C'est inacceptable de laisser mourir des gens sous nos yeux, aux portes de l'Europe.
Alors, puisque vous parlez de politique, on est en pleine période des primaires. Celles de la droite ont eu lieu. Celles de la gauche, en tout cas des socialistes, vont avoir lieu bientôt. On ne parle pas beaucoup de solutions quant à ces migrants-là, dans les propositions des différents candidats. On vous a sollicité, on vous met au cœur de l'actualité ou pas encore ?
Non, on n'est pas du tout au cœur de l'actualité. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait autant d'intérêt pour cette question des noyades en mer Méditerranée. Ça ne fait vraiment pas la une des agendas politiques, ça se saurait sinon. Non, je pense qu'on est, vraiment pas très audible. Mais on va évidemment, nous, profiter de cette période d'élection présidentielle pour essayer d'interpeller les candidats aux élections sur ces questions-là. Parce que il y a une vraie question de responsabilité collective qui se pose. Si nous, en tant que membres de la société civile, nous sommes mobilisés, comment se fait-il que nos responsables politiques ne se mobilisent pas ?
L'État ? De l'argent de l'État français ?
On n'a aucune subvention de l'État français, ni d'aucun État européen. On vient de recevoir par contre notre première subvention d'État, qui est une subvention de la Principauté de Monaco. Ce qui quand même, on est très heureux que la Principauté de Monaco nous soutienne, mais ce qui laisse quand même un petit peu perplexe sur la capacité des États européens à contribuer.
Son Altesse Sérénissime. Mais est-ce qu'il y a des ONG qui refusent le soutien de l'État ? Vous n'avez pas du tout de problème avec ça, en disant il faut pas. On est très jaloux de notre indépendance. On peut pas. C'est important qu'il n'y ait pas. Non, vous n'êtes pas dans cette logique-là.
On est surtout très obnubilés par cette catastrophe humanitaire en fait en mer Méditerranée, et on pense qu'un bateau ça ne suffit pas. Donc on voudrait qu'il y ait plus de bateaux qui se mobilisent, que ce soit des moyens d'État ou que ce soit des moyens d'associations indépendantes comme la nôtre. Mais il faut qu'il y ait plus de bateaux qui aillent sur cette zone de sauvetage pour qu'on arrête cette hémorragie. C'est juste pas possible de continuer comme ça.
En été, vous êtes combien de navires d'ONG ?
On a été jusqu'à 10 bateaux sur la zone, mais pas tous avec la même capacité opérationnelle. C'est-à-dire que certains de ces bateaux n'avaient pas la possibilité de faire monter à bord les rescapés. Ils distribuaient des gilets de sauvetage, ils procédaient au repérage des embarcations en détresse. Et ils appelaient d'autres bateaux à la rescousse pour pouvoir embarquer les
personnes. J'imagine que la zone à couvrir est immense.
Oui, la zone à couvrir est immense. Alors, il y a une zone, il y a la zone est et la zone ouest de Tripoli, en fait, au large hein, de Tripoli. Il y a une zone un peu plus définie sur l'ouest, et c'est une zone très très large sur l'est de Tripoli. Donc, un bateau, ça ne suffit absolument pas. Et effectivement, il faut plusieurs bateaux pour se déployer sur la zone.
Qu'est-ce que ça en dit sur l'époque, Sophie Beau, où des bateaux de croisière immenses naviguent pas très loin finalement de canaux pneumatiques surchargés ?
Ouais, c'est un peu attristant de voir qu'on n'est pas capable de traiter cette question de manière responsable. Mais en même temps, nous, on a quand même aussi... pas mal d'espoir, parce qu'on voit aussi tout ce qui se fait avec toute cette mobilisation citoyenne à terre qui s'est développée pour soutenir SOS Méditerranée, parce que pour pouvoir collecter ces 11 000 euros par jour, c'est énormément d'actions spontanées, de soutien qu'on a, et donc on rencontre tellement de gens qui sont heureux et qui nous disent merci et qui font vraiment, mais c'est incroyable, dans des petits villages, des actions de collecte, il y en a des dizaines, quoi, je peux même pas commencer à les citer, autour d'écoles, de classes. Donc il y a aussi quand même beaucoup de gens qui sont solidaires et qui le font de manière pas forcément très visible ni très médiatique, mais qui contribuent à cet espoir d'une approche plus humaine et plus responsable.
Michel, vous n'avez pas, alors je ne sais pas si c'est par pudeur, mais vous n'avez pas défini l'équipe au sol, à terre. Vous n'êtes pas très nombreux. Hein.
Alors on n'est pas très nombreux en salariés, puisqu'on a commencé, on était deux, on est maintenant cinq en France, autant en Allemagne. Et sinon, on est entouré par de très nombreux bénévoles qui assurent des fonctions essentielles, hein, de l'association. Et par exemple, toute la direction financière de ce projet, qui est quand même un très gros projet, puisque c'est avec des flux entre l'Allemagne, la France, l'Italie, et pour affréter un bateau, enfin c'est complexe, tout ça c'est fait par des bénévoles très compétents qui mettent à disposition leurs compétences professionnelles. Et il y a cet énorme soutien bénévole aussi de mobilisation pour parler de SOS Méditerranée à terre dans des stands, des festivals, des colloques, des écoles, des musées, des concerts, etc.
Sophie, vous avez été, pardon, vous-même bénévole pendant plus d'un an, c'est ça, sur ce projet?
Oui, bien sûr.
Au moment de la gestation du...
On a tous été bénévoles pendant... Oui, tout le monde était bénévole jusqu'à ce que le bateau parte, et là, il était nécessaire de renforcer, enfin, de professionnaliser l'équipe et d'avoir des permanents pour pouvoir gérer le projet correctement.
Sophie Beau, votre action, vous l'avez dit, s'inscrit dans la durée, en tout cas c'est votre volonté, même s'il y a des difficultés financières. On a commencé avec cette migration économique, on a aujourd'hui des réfugiés de guerre et ça ne va pas se calmer. La troisième vague que vous craignez, que l'on craint, c'est les réfugiés climatiques.
Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas extrêmement adepte de ces classifications, parce que je pense que les raisons sont plus complexes.
Et enfin, le problème va aller en crescendo.
Mais effectivement, on est bien au courant qu'il y a des désordres climatiques mondiaux et que les gens qui ne trouvent pas à manger dans leur pays quittent leur pays. Ça n'a rien de nouveau. Ça ne peut que se développer, effectivement.
Michel ? Le mot de la fin.
Le mot de la fin, d'accord, très bien. j'ai pas l'œil sur l'horloge. C'est la question de la pérennité, finalement, peut-être de cette action. C'est-à-dire que pour vous, cette société civile européenne de sauvetage, elle est amenée à durer. Alors peut-être, hélas, vous ne définissez pas comme des urgentistes. C'est-à-dire que vous voulez travailler dans la durée.
Oui, on veut travailler dans la durée. D'une part, parce que il y a pas beaucoup de moyens présents sur place. Et que on pense que ces flux vont continuer, et que malheureusement, comme l'Europe n'ouvre pas ses frontières, mais qu'elle les ferme de plus en plus, il y a toujours pas de voie d'accès sûre pour les personnes. Donc il n'y a aucune raison que ces personnes arrêtent de partir par la mer. Et du coup, effectivement, on se voit dans la durée tant qu'il y aura des personnes qui mettront leur vie en danger en mer Méditerranée ou dans d'autres... ça peut être sur les côtes atlantiques, hein, entre les côtes africaines et les Canaries, par exemple, c'est pareil. Mais tant qu'il y a des personnes qui meurent en mer pour pouvoir rejoindre une autre terre, oui, nous nous voyons dans la durée.
Alors peut-être que ma question va vous paraître un petit peu décalée, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre risque qui serait celui de suppléer finalement par votre action les insuffisances des États? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de délégation finalement de responsabilité?
Mais sans les moyens qui vont avec.
Alors écoutez, cette action n'a pas lieu. Donc, évidemment, un bateau ne supplée rien du tout, mais moi, je ne peux pas me regarder dans la glace si je ne participe pas à faire quelque chose face à cette situation. Je ne peux pas me satisfaire de cette absence d'action. Donc, en plus, il y a une mission qui est quand même essentielle et qui ne sera pas remplie, et qui n'était pas remplie, par exemple, dans le cadre de l'opération Mare Nostrum. C'est cette mission de témoignage, faire venir des journalistes à bord d'un bateau qui est indépendant et qui peut témoigner de la situation. C'est pas quelque chose qui se fait sur les bateaux militaires, c'est évident. Donc, moi, je pense que c'est essentiel qu'il y ait des associations, enfin, en tout cas, des instances indépendantes qui soient présentes pour documenter ce qui se passe, pour alerter et pour rapporter au grand public sur cette situation. pour qu'on arrête de faire face à un trou noir. Cette Méditerranée, pendant 15 ans, est restée complètement à l'abri des regards. Donc c'est important qu'on puisse amener aussi ce regard sur cette tragédie.
À la lecture justement de certains témoignages que vous mettez sur votre site, et j'invite les auditeurs à aller les lire, il y a quelque chose qui revient, il me semble. Vous allez me dire oui ou non. C'est que souvent, les gens que vous repêchez et prenez en charge disent, mais si on avait, pour ceux en tout cas qui avaient tenté de leur plein gré de faire la traversée, si on avait su, on ne serait jamais engagé sur pareil défi. On ne se lance pas dans une traversée comme ça par plaisir.
Ça, c'est clair. Les gens ne savent pas ce qui les attend en Libye et on a beaucoup de mal à en parler dans les médias de tous ces témoignages. Ça n'intéresse pas. Cette situation est complètement méconnue. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à plus parler de cette question des violations massives des droits de l'homme et des droits fondamentaux en Libye. D'une part, et d'autre part, bien sûr, ils ne pouvaient pas imaginer ce que c'était qu'une traversée sur un petit bateau comme ça. Mais de toute façon, on ne leur dit pas la vérité. On leur dit, quand ils embarquent, qu'ils en ont pour 3 heures de traversée pour arriver jusqu'à Lampedusa. Ce qui est complètement faux, puisqu'il faut au minimum 30 à 36 heures de traversée avec un bateau qui soit navigable et quelqu'un qui sache le piloter. Or, il n'y a pas de capitaine dans ces bateaux. Il n'y a personne qui sait naviguer. Les bateaux se dégonflent au bout de quelques heures. Ils cassent. Ils ne sont pas du tout faits pour la traversée. Donc, de toute façon, ils n'ont aucune chance d'arriver jusqu'en Italie. Et effectivement, ce que tous nous disent, c'est que s'ils avaient su, ils ne seraient pas montés sur ces bateaux.
On a une idée de la somme que dépense chaque réfugié aux passeurs, pour ceux qui payent en tout cas ?
Il y a, des témoignages qui font état de 500 à 2000 dollars payés pour ces traversées. Donc, il vaudrait mieux payer un billet d'avion pour pouvoir arriver tranquillement dans un aéroport.
Donc, les gens qui sont en situation de quitter leur pays et de traverser, de faire cette traversée, sont les gens qui ont les moyens. C'est pas les plus démunis.
Ils n'ont pas forcément les moyens, mais ils collectent cet argent en travaillant, parfois pendant des mois et parfois du travail forcé qui est très très mal payé pour le coup. Ça leur met donc parfois plusieurs mois, plusieurs années pour pouvoir collecter les sommes nécessaires pour traverser.
Michel ?
11 000 euros par jour, 3 mois de visibilité pour l'instant sur 2017. Vous restez malgré tout optimiste, vous sentez vous pensez être en capacité de continuer à alimenter cette mobilisation citoyenne. Il y a des stratégies là, on fait comment ?
En gros, est-ce que la lassitude ne vous guette pas ?
Comment on fait ? Vous allez multiplier les appels
Alors, comme je vous l'ai dit, oui, nous multiplions les appels aux dons, mais surtout nous développons cette extraordinaire mobilisation citoyenne. C'est vraiment ça notre stratégie numéro un, c'est d'une part de sensibiliser l'opinion publique à cette question et d'autre part aussi de demander à ces citoyens solidaires de nous aider par leurs dons, parce que c'est avec cette multiplicité de dons qu'on peut avoir cette visibilité financière. On a quand même déjà 20 000 euros par mois qui sont assurés en prélèvement automatique mensuel. Et ça, c'est déjà ça. Enfin, je veux dire, par rapport à 330 000 euros, on n'y est pas encore. Mais c'est déjà pas mal au bout de 9 mois d'opération en mer de pouvoir avoir cette certitude chaque mois. Et puis, c'est quelque chose qu'on veut développer. Et bien sûr, on travaille d'arrache-pied sur les différentes sources de financement possibles pour pouvoir assurer la pérennité des opérations. On a déjà affrété le bateau jusqu'à la fin 2017, même si on n'en a pas encore les financements.
Michel Guéraud, c'est quoi, c'est la dernière
avec
question.
Une transparence des comptes, avec en garantissant aux gens, parce qu'il y a aussi cette image des ONG qui parfois, on a bien compris, vous êtes une petite structure, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer des gens qui pourraient s'inquiéter de ça ?
Ah bah oui, écoutez, on peut dire que c'est une action vraiment concrète. On a les témoignages sur le site au jour le jour. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, Facebook, sur Twitter, heure par heure, ce qui se passe sur l'Aquarius. Ça, je pense que les gens peuvent être rassurés sur la bonne utilisation des fonds. C'est concret.
Sophie Beau, on vous remercie. Une dernière chose, si les gens veulent donner de l'argent concrètement, ils vont sur le site SOS Méditerranée.
Alors, ils font un don sur sosméditerranée.fr. Ils ne vont pas louper le bouton rouge faire un don. Si jamais ils le préfèrent, ils peuvent aussi envoyer un chèque. Et tout est expliqué également sur le site. Il faut aller sur la rubrique faire un don et on peut cocher soit en ligne, soit par chèque.
Sophie Beau, je vous remercie. Allez, on se retrouve au mois prochain. Bye.